Donc on a raccroché sur le streaming de Radio Campus, mais nous sommes toujours là pendant 20 minutes. On continue donc au Nouveau Théâtre de Montreuil. Et pour clore notre exploration de la création radiophonique, on accueille maintenant l'auteur de radio, François Perrache.
Tu es dans la salle. Mais on va tout de suite peut-être, pour commencer, avant de discuter avec François, bonjour, merci. On va peut-être écouter un petit extrait.
On lance un extrait, effectivement, de Guerre en Fils, produit par Arte Radio.
Inter-actualité.
À Paris ce matin, il nous faut signaler, Jean Lanzy, un nouvel attentat du FLN. Il s'est produit dans le 14e arrondissement et il a causé la mort d'un officier de police.
À 9h donc ce matin, trois terroristes se sont présentés au bureau d'assistance technique aux travailleurs musulmans algériens, qui est situé 8 rue du Colonel Monteil. À peine entrés dans ce bureau, les trois Nord-Africains sortirent leurs revolvers et abattirent M. Perrache, officier de police. Continuant à tirer, les tueurs blessèrent alors un agent du bureau et un autre gardien de la paix. Tous deux ont été transportés dans un état grave à la maison de santé des gardiens de la paix, tandis que les deux agresseurs réussissaient à prendre la fuite.
De Guerre en Fils. Un feuilleton de François Perrache.
Épisode 2.
Préfecture de police de Paris, ne quittez pas.
Là,
nous allons donner suite à votre appel.
Je crois que je vais avoir le temps de vous faire un petit résumé de l'épisode précédent. Monsieur Perrache, officier de police.
Monsieur Perrache, officier de police.
Celui qui vient de se faire buter par trois Nord-Africains, c'est mon grand-père.
Les trois Nord-Africains sortirent leurs revolvers et abattirent Monsieur Perrache, officier de police.
Ça, c'est un extrait du journal de France Inter. Ça date du jour même de son assassinat, le 2 octobre 1961.
Préfecture de police de Paris, ne quittez pas, nous allons donner suite à votre appel.
C'était l'époque où, concernant la situation algérienne, on ne parlait pas encore de guerre, mais d'événements. En fait, pour moi, tout a commencé, ou plutôt tout a recommencé, la nuit des attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Je dînais rue Bichat ce soir-là, et comme mon grand-père 50 ans plus tôt, j'ai bien failli me faire canarder dans les rues de Paris.
Je me mets par terre, j'ai l'impression que je veux protéger quelqu'un, mais je crois qu'il n'y a personne.
Mon cheval a très peur, moi j'ai très peur.
Et là, je chute.
On monte dans l'avion, décolle, et il explose en vol.
Des tas de gens ont fait des cauchemars cette nuit-là.
Je baisse les yeux et je me rends compte que mon cheval porte une ceinture d'explosifs.
Moi, j'ai rêvé de mon grand-père.
Donc, François, ce qu'on vient d'écouter, c'est un extrait du deuxième épisode de Guerre en Fils. C'est un feuilleton, un feuilleton en 6 épisodes dans lequel tu enquêtes sur la mort de ton grand-père à Paris, quelques jours avant le massacre des Algériens, le 17 octobre 1961. C'est une série qui a été produite en 2016 par Arte Radio et réalisée avec Sabine Zovigian. C'est bien ça?
Sabine Zovigian et Samuel Hirsch pour Arte Radio.
Ok.
Alors, on voulait peut-être te demander cette question de te présenter un petit peu avant toute chose, parce que tu as plusieurs casquettes, comme beaucoup de gens qui font de la radio, tu me diras, mais c'est qu'à la base, tu es ingénieur, tu as travaillé dans un cabinet ministériel, tu es devenu comédien, et après, tu es tombé dans la radio.
Oui, c'est ça, oui. On n'a qu'une seule vie, donc il faut en avoir plusieurs. Mais effectivement, la vie d'avant est peut-être moins intéressante, mais le seul lien, c'est effectivement, j'ai bossé dans la com institutionnelle un moment. Le lien, c'est que après, j'ai basculé complètement comme comédien. Et j'ai commencé comme comédien à la radio dans les fictions chez France Culture. Et un jour, un réalisateur, Cédric Ossier, qui me connaissait, me dit en sortant d'un studio, je venais de faire le perroquet dans le Chat du Rabbin. Et je passe la porte du studio et il me dit, mais au fait, tu peux pas bosser dans la politique, tu veux pas proposer une fiction politique à France Culture? Je dis, non, je suis pas auteur, etc. Il me dit, réfléchis, etc. Et c'est comme ça que j'ai commencé, alors que j'étais comédien, à écrire. Je savais pas que c'était impossible, comme on dit, donc j'ai essayé. Et j'ai écrit un premier épisode, un synopsis de 5 épisodes pour une série donc Culture. Là, on a écouté un truc d'Arte Radio, mais la première que j'ai faite, c'est un truc qui s'appelle 57 rue de Varennes pour France Culture. Voilà. Et donc c'est comme ça que ça a démarré. Après, je suis rentré dans le cycle normal de conception et d'écriture des fictions chez France Culture avec des conseillers littéraires. C'est Emmanuel Chevrier ici. Tout ça est validé par Blandine Masson au service des fictions. Et puis là, c'est un autre système de production qui est assez différent de celui d'Arte, mais c'est deux modes différents.
Et toi, dans l'écriture, tu trouves aussi des différences quand tu réponds pour Culture ou pour Arte? Tu peux nous...
Je me suis posé parfois la question des différences et des similitudes. Dans les deux, les conditions de production peuvent être différentes, mais on a une liberté totale dans les deux cas. Peut-être ce qu'on peut dire, c'est que Daniel tout à l'heure parlait des scripts, de l'importance des scripts. Les scripts sont peut-être très différents chez Culture et chez Arte. Chez Culture, il y a donc un réalisateur qui est nommé. Il y a des assistants de réalisation, des bruiteurs, les comédiens, etc. Donc l'auteur, moi je ne mets aucune prérogative du réalisateur dans le script. Le script, c'est vraiment la partition. Et même un des derniers travaux qu'on fait ultime en réécriture, parce qu'en moyenne on a fait entre 10 et 12 versions de chaque script. Il y a 12 versions en moyenne. Par exemple, c'est de virer les dernières didascalies de jeu. Hein, les didascalies sont pour moi une faiblesse d'écriture. Tant que j'ai besoin de didascalies, c'est qu'il y a un truc qui n'est pas correct dans le script. Chez Arte, ça a été très différent, puisque dès l'amont, très en amont, on a travaillé avec Sylvain Gire, mais aussi les chargés de production, avec Samuel Hirsch, le chargé de réalisation, enfin le réalisateur, Sabine Zoviger, avec qui on a coécrit. Et dès le script de Guerre au Fils, dont on vient d'entendre un petit bout, le script, c'est quasiment un pré-montage. C'est-à-dire qu'il y a dans le script, il y a le texte de narration qui est très présent, mais il y a aussi tous les extraits d'archives minutés, certains choix musicaux. Là, Samuel Hirsch a composé beaucoup de choses, et aussi beaucoup de choses de bruitage, qui font partie de la grammaire du feuilleton. Donc ça, c'est quelque chose que je ne fais pas apparaître dans un script pour Culture, et qui apparaissent très nettement dans un script pour Arte Radio. Mais je crois qu'il n'y a pas de règles de production. Sylvain Gire pourra en parler mieux que moi.
Et combien de temps vous avez travaillé pour cette série de Guerre en Fils, hein, en 6 épisodes?
Je suis un garçon assez lent, donc on a mis 10 ans. Moi, ça fait 10 ans que je suis là-dessus. Et plus concrètement, la phase de réalisation, ça a été faite avec Sabine et Samuel. Et là, je dirais qu'avec les équipes d'Arte, je dirais un an à peu près. Peut-être on peut dire qu'on avait une réunion peut-être 6 mois avant le 17 octobre. Et on était venu voir un peu ingénument Sylvain Gire et ses équipes en disant « Dans 6 mois, on aimerait faire un machin à l'occasion du 17 octobre 61 ». Comme je suis un garçon scolaire, on est quand même arrivé avec une trame, avec une interview de l'abbé Pierre, enfin des trucs un peu sexy, un peu marrant, une interview de mon père, quasi en larmes. Et on a dit, on pense qu'on peut faire un machin, et on sera prêt pour le 17 octobre. Et bizarrement, on a été prêt 6 mois plus tard, mais un peu coup de bol. Mais je dis 10 ans parce que Daniel a parlé d'une forme qu'il trouvait là, sur scène en live de performance. Il se trouve que, par exemple, De Guerre en Fils, de ce point de vue-là, est intéressant. Ça a d'abord été il y a 10 ans, j'ai fait des recherches quand j'avais 30 ans. J'ai fait des recherches sur mon grand-père, j'ai fait un texte pour ma famille de 80 pages, une espèce de texte roman, quoi, pour moi. Ça, j'en ai parlé à des copains, etc. Ensuite, au théâtre, avec notamment Sabine, c'est là que j'ai rencontré Sabine comme comédienne, à l'école Claude Mathieu. Il se trouve que Sabine travaillait comme productrice aussi avec Sylvain Gire chez Arte Radio. On s'est rencontrés comme ça. Et avec Sabine, on avait essayé d'en faire un spectacle de théâtre, de cette histoire qui avait intéressé les copains. Moi, ça me disait, mais l'histoire familiale, ça va intéresser personne, etc. On a fait quelques semaines de répétition et ça a été assez catastrophique. Hein. On a rien produit. J'ai laissé tomber ça et puis il y a ce que je raconte. C'est-à-dire qu'après, je me suis mis à re-rêver au moment des attentats de mon grand-père. Et on s'est dit, il y a peut-être une forme radiophonique à trouver. Et il se trouve que cette chose à raconter, je ne suis pas sûr de faire de la radio toute ma vie, mais ça, c'est quelque chose que je voulais raconter. Et la radio était la forme la plus idoine pour raconter ça. C'est ce qu'on dit au début. L'histoire de mon grand-père m'est revenue par les oreilles. Et parce que donc, voilà, j'ai pas vu les attentats, mais moi j'étais Rubicha et on a entendu les Kalachnikov. Et on démarre la fiction comme ça. Et la nuit des attentats, moi je voyais la mort de mon grand-père et j'entendais les Kalach. Et j'ai dit, bah, tiens, on va raconter cette histoire avec les oreilles. Donc la radio était la forme idoine, mais il faut 10 ans.
Voilà. C'est un peu la première fiction radio, 57 rue de Varennes, un feuilleton produit par France Culture, réalisé par Cédric aussi. Combien il y a de saisons de ce feuilleton-là, en tout?
Ben là, on vient de diffuser en février la troisième saison. C'est vraiment des très grosses machines, hein, puisque chaque saison, c'est 5 épisodes de 25 minutes. Et là, on est en train d'écrire la quatrième saison qu'on espère produire au printemps.
Est-ce que c'est la première série comme ça qui plonge dans le monde politique? Comment tu as procédé, toi, qui as travaillé donc dans un cabinet ministériel, ensuite pour travailler et scénariser ce que tu avais vu? Est-ce que tu peux nous raconter un peu
Par exemple, tu avais des notes de choses que tu avais notées quand tu travaillais, dont tu t'es resservi par exemple pour écrire?
Alors en l'occurrence des notes écrites, non, parce que je prenais pas de notes quand je, enfin, je sais pas si vous, mais moi je prends pas des notes sur mon boulot quoi, je bosse, mais à l'époque je prenais pas des notes. Mais par contre on a tous vécu des anecdotes plus ou moins frappantes, etc. Il se trouve que c'est un milieu qui suscite toujours un peu d'excitation, parce qu'on se dit bon, il a parlé au président, etc. Donc effectivement il y a des anecdotes qui sont un peu plus sexy que d'autres, mais sinon c'est des métiers qui peuvent être parfois très pénibles. En revanche, j'y ai travaillé longtemps, donc c'est imprégné en moi, mais comme dans tous les métiers, mais ça c'est une marotte, des tics de langage, un certain champ sémantique, une manière d'être, des choses comme ça, que je crois la fiction, surtout télé, puisque la radio s'en empare un peu moins, je crois, mais il n'y a pas que 57, mais il n'y a pas beaucoup de fiction politique. Mais la fiction télé est parfois pas très juste. Enfin, on est un peu consterné quand on... Mais comme tous les métiers, je pense. Je pense que si un boulanger regardait une fiction sur un boulanger, il serait consterné par la manière dont l'acteur pétrit le pain. Et on est souvent consterné quand on... Et il y a des choses merveilleuses. Hein. Baron Noir, par exemple, c'est merveilleux. L'exercice de l'État au cinéma, c'est merveilleux. Enfin, il y a plein de contre-exemples. Mais voilà, donc pour répondre à la question, des notes non, mais la question de la sémantique est importante. Et pour répondre à la question de Maya, concrètement, par exemple, l'idée, c'est pas de faire une fiction politique politicienne, mais donc c'est truffé de citations qui sont volontairement ou pas des échos de choses que les gens connaissent. Mais typiquement, moi, j'accumule vraiment des centaines, des milliers de notes pour l'écriture. Je travaille beaucoup par couche. C'est-à-dire qu'en moyenne, j'écris 2 à 3 fois plus que ce qui va être utilisé à la fin. Je produis beaucoup. Et puis ensuite, notamment avec Emmanuel Chevrière et Cédric Ossir, on élimine. Et même travail qu'on a fait avec Sabine Zovigian sur De guerre en fils, où c'est mon mode d'écriture, je produis beaucoup. Et puis on me dit, ça c'est pas bien, enlève, etc. Donc on fonctionne comme ça. Et 57, donc par exemple la saison 1, c'est des échos, hein, c'est ce que dit Stéphane Michacquin, un auteur que j'aime beaucoup, qui travaille beaucoup pour culture aussi. Il dit la fiction c'est la réalité avec un pas de côté. Donc là l'idée c'est de faire des évocations sur la politique, hein. Donc il y a beaucoup de citations, mais que je prête, typiquement je prête des citations une fois de droite et de gauche à un même personnage par exemple, pour créer des échos, mais des petites choses comme ça. Et la saison 1 par exemple, c'est clairement la structure, c'est notamment une évocation de l'affaire Guémard. Hervé Guémard qui a vraiment existé, c'était ce type ministre des Finances qui s'était fait payer un 600 m² sur les Champs-Élysées, une bonne, en plein sur le droit au logement, et qui s'étonnait que les gens soient choqués qu'on lui paye un hôtel particulier. Et il a sauté en 48 heures. Et c'est ce qu'on raconte, mais décalé, dans la saison 1 de 57, par exemple.
Est-ce que tu réécris aussi, est-ce que tu as réécrit au fur et à mesure de l'enregistrement? Est-ce que tu as adapté ton scénario?
Alors, en l'occurrence, pas du tout. Moi, je suis très admiratif de choses que j'ai entendues aujourd'hui, qui, on va dire que c'est revendiqué comme tel. Je crois que l'improvisation a une part importante. Je suis incapable de travailler comme ça. Moi, je suis un tâcheron. Donc, et alors, il se trouve que je suis rentré à la radio par France Culture, où les moyens de production, enfin, c'est consubstantiel à cette fiction 57 rue de Varennes, je ne peux pas parler pour les autres fictions, mais c'est une très grosse machine. Il y a une centaine de comédiens, on a 6 à 7 jours de tournage, ce qui est à la fois énorme et en même temps c'est très contraint. Donc on est quasiment dans une logique proche de celle d'un plan de travail ciné ou télé. Donc ça veut dire que, bien sûr, il y a toute la place de l'improvisation, de l'interprétation, mais on n'a pas le temps de se poser des questions tellement de recherche au plateau, au studio. Les moyens sont chers, donc voilà, plus les contraintes des comédiens, je ne vous dis même pas saison 3 et 4, puisque le cast est imposé avec les récurrents. C'est des gens qui viennent de la comédie française, du cinéma, donc en gros, on a tel acteur 2 heures, parce qu'après, il repart au français. Donc l'idée, je ne sais pas si c'est bien, mais quand on arrive au plateau, c'est exactement ce qu'on veut. Donc les comédiens interprètent, mais typiquement, par exemple, quand la scène est prête, il y a un travail systématique de réécriture. Quand on dit le script est prêt, on repasse tout au check. Par exemple, moi, je fais une lecture uniquement sur la ponctuation, par exemple. Il n'est pas question de discuter une virgule, un point d'exclamation, un point d'interrogation. L'idée est que le comédien soit très libre au plateau, mais qu'il joue la partition qu'on lui donne. Donc c'est pour ça qu'on en parle beaucoup en amont avec les conseillers littéraires et avec le réalisateur. Idem sur De guerre en fils, on a eu plus de souplesse après l'enregistrement, mais on a beaucoup discuté avec Sylvain, avec Samuel, avec les chargés de production, avec Sabine, avec qui on a écrit la chose tous les deux. Mais je crois qu'on peut dire, hein, Sylvain, que le script était quand même très stable avant même d'entrer en studio. Puis après, ça nous a pas. On a de ce point de vue plus de souplesse. On peut réécrire les choses après même le mix, ou en tout cas le montage. On peut encore réécrire après.
Bon, alors maintenant, en exclusivité, Tu nous as apporté une petite surprise.
Un texte de François Perrache.
Oui.
Tu es en train de travailler actuellement sur une future production.
Bah alors je raconte le contexte. En fait, je suis pas sûr d'avoir compris le cahier des charges, mais on est entre amis. Parce que les prochaines prods, elles sont claires. Il y a notamment la saison 4 de 57. Puis il y a d'autres choses en cours. Et là, l'idée, c'était de partager avec vous. Alors, c'est un peu les cordonniers les plus mal chaussés parce que je suis comédien, mais ça va être anti-spectaculaire au possible. L'idée, c'était de partager avec vous une trame de texte d'un machin. Voilà, un machin. Je ne sais pas ce que ce sera. J'ai pas de production. J'ai pas d'échéance. Je ne sais pas si ça sera produit un jour. Ce que je sais, c'est que c'est un truc qui me tient à cœur et que le résultat final, si un jour il sort. Dans 15 ans, je sais qu'il n'aura pas du tout cette tête-là. Mais j'ai joué le jeu, c'est-à-dire que j'ai écrit un texte et je ne l'ai pas retravaillé pour ici. Donc l'idée, je contexte juste deux secondes, l'idée, ça va être de retravailler sur un sujet très intime comme de guerre en fils. Et en deux mots, je partais du constat que depuis que je suis né, je suis sujet à des crises d'angoisse tout à fait inexpliquées, parce que j'ai une enfance tout à fait heureuse et très aimante et très aimée. Mais je suis très angoissé, je ne sais pas pourquoi. Et comme beaucoup de gens, après les attentats du 13 novembre, mes crises d'angoisse ont disparu du jour au lendemain. Et donc je me suis dit, tiens, j'aimerais bien écrire sur cette question de l'angoisse. Donc j'ai accumulé beaucoup de matière, comme je fais pour De guerre en fils ou pour 57. Et parmi les choses, j'ai eu une interview d'une neurobiologiste suisse, des choses comme ça, des interviews de ma mère, des interviews de mon père, des interviews de Nicolas Sarkozy. Et donc je travaille sur la question de l'angoisse. Mais l'idée, ça va être de travailler sur une forme, a priori, un peu pamphlétaire, un peu fable. Voilà. Donc je travaille un peu sur une écriture de type fable. Donc il faut juste imaginer que ça pourrait être un début de texte, ça ne ressemblera pas à ça. Et l'idée, c'est de l'ancrer en 2017 avec un ton peut-être un peu décalé. Il faut imaginer que tout ça, et là je ne vais pas vous le faire, mais dans l'écriture, et après je lis vraiment, mais il y aurait beaucoup d'extraits de choses, là j'ai mis des extraits de Cyril Hanouna, des choses, des discours de Laurent Fabius à la COP21, des discours d'Emmanuel Macron pendant sa campagne, etc. Voilà. Donc ça ressemble à ça pour l'instant. C'était il y a une éternité. C'était précisément au commencement de la fin des temps. C'était il y a plusieurs éternités. Le lingot en plomb du siècle n'avait pas encore fondu le sixième de son poids. Ce siècle pas sérieux n'avait que 17 ans, je crois. Je vivais alors aux confins de ce qu'on appelait l'Europe, plus précisément au cœur de la capitale du royaume de France. 12 fois par an, je donnais entre le tiers et la moitié de mes revenus à un propriétaire qui, en échange de cet argent, me permettait de vivre, dormir, manger, travailler et remplir la plupart de mes besoins physiologiques dans une tranche d'habitation, coincée entre deux autres tranches d'habitation et que j'appelais mon appartement, mais qui en réalité était son appartement. J'y avais trop chaud l'été, trop froid l'hiver, mais la température moyenne annuelle y était agréable. La mauvaise isolation phonique me permettait de maintenir un lien social avec les occupants des autres tranches d'habitation, notamment ceux de la tranche du dessus, dont je pouvais suivre la plupart des activités. J'habitais donc, en partant du bas, la sixième tranche d'un immeuble dans Paris, capitale du Royaume de France, au cœur de l'Europe, ce Finistère au sud-est de l'Empire de Chine. Au sud-est, oui, car en ces temps ineptes, j'avais pris l'habitude de regarder la carte du monde à l'envers, afin de le voir non tel qu'on nous le présente sous la forme d'un puzzle de 197 pièces aux dimensions variées et aux formes absurdes, mais tel qu'il est. Un archipel composé grossièrement de trois grandes îles, l'Australie, les Amériques et l'immense Eurasie-Afrique, qui aurait permis de relier en prenant son temps et un bon vélo les 20 000 km qui séparent la mer de Sibérie du cap de Bonne-Espérance. Vu sous cet angle, la France m'apparaissait sous ses véritables dimensions. Une verrue, ridicule, rejetée aux frontières du monde. Ridicule, dit un chiffre sans réfléchir. Eh bien, c'est moins. Avec ses 551 500 km², si on exclut nos colonies, qu'on appelait alors nos territoires d'outre-mer, la France représentait 0,3% de la surface des terres émergées du globe. 0,3%. Si on avait ramené la surface de la Terre aux proportions d'une feuille de papier, ça donnerait à peu près ceci. Prenez une feuille au format standard, dit A4. Pourquoi A4? Parce que c'est le format qu'on obtient lorsque l'on plie 4 fois une feuille d'exactement 1 mètre carré, dite feuille A0. Bref, prenez une feuille de papier standard, dessinez un carré d'un centimètre de côté sur un des angles de cette feuille. Remplissez ce carré d'une couleur de votre choix et regardez la feuille en la tenant à bout de bras. Ce petit carré, là, dans le coin, voilà la France. Autre méthode, méthode dite origamiste. Prenez cette même feuille de papier, pliez-la en deux, repliez-la en deux sur l'autre axe, puis repliez le tout en deux. Repliez en deux sur l'autre axe, re-repliez en deux, et re-re-repliez en deux sur l'autre axe. Si vous le pouvez, repliez le tout en deux une dernière fois. Voilà la France. 0,3%. Ramené aux proportions de mon appartement, j'avais fait le calcul, la France éternelle, ce phare du monde, c'était à peu près le tiers de la surface de mes chiottes. Et assise en majesté sur son trône, la France entendait diriger le cours de l'histoire. En ce début de fin des temps, donc, en cette 17e année du 21e et dernier siècle de domination chrétienne sur le monde, le peuple de France, enfin le peuple qui votait, c'est-à-dire les blancs, les riches, les vieux en état de se déplacer, soit tout compte fait et refait, un habitant sur quatre au mieux, ce qu'on appelait donc le peuple, avait dans un ultime baroud de déshonneur porté à la tête du pays son nouveau roi, ou plutôt son nouvel empereur, Œdipe Ier, vieux jeune homme tellement pressé qu'il avait épousé sa mère avant même de tuer son père. Au printemps de cette même année, agrippé à un véhicule de guerre, sous les hurrahs mous d'une foule quasi inexistante mais démultipliée par les cadrages savants des caméras, Œdipe Ier, l'enfant empereur, entouré de motocyclistes et de chevaux, j'ai bien dit de chevaux, remontait ce qui fut la plus belle avenue du monde. Il s'apprêtait à livrer le peuple consentant au viol par la banque.
Merci François.
Merci François. Eh bien, merci beaucoup François Perrache, merci à toutes et à tous, merci à Olivier Minot, merci à Marie-Laurence Roncourt, merci à François TJP, à Daniel Martin-Boré, au collectif Utopie Sonore, à Elisa Monteil et merci au collectif Stalingrad Connection.
C'était Constellation, une émission proposée par Adore, invitée au Nouveau Théâtre de Montreuil pour le festival Mesure pour Mesure, une émission retransmise sur Radio Campus Paris.
Et merci à la technique à Emmanuel Gibello avec l'aide d'Emilie Valla, à l'organisation, merci à Alexandre Planck, à Marianic Bello, mais aussi à Clémence, à Karim et tous les autres. Merci aussi à Mathieu Bauer et à toute l'équipe du Théâtre de Montreuil qui nous a gentiment accueillis aujourd'hui.
Voilà, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Maintenant, bonne soirée et vive la radio.